Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal avec Pascal Masséri Kabi 6 mois.
Les titres de l'actualité, 70 millions d'euros de l'Union européenne vont financer des projets humanitaires dans l'est de la RDC, annonce faite ce samedi à Goma par l'ambassadeur de l'Union européenne qui conduit une mission venue évaluer sur place les besoins des déplacés dans les différents sites proches de la ville. Élection ce samedi à Matadi de 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central sous la coordination de la CENI. Cet organe délibérant sera piloté par Papi Mantezolo. Notre invité, c'est le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière. Patrick Nkongo affirme que sa structure va soutenir les micro, petites et moyennes entreprises avec une ligne de refinancement de 20 millions d'euros obtenue du gouvernement allemand. Madame, Messieurs, bonsoir. Une délégation de l'Union européenne est en mission à Goma, au Nord Kivu, pour palper du doigt la situation des déplacés internes dans les différents sites. C'est confiant à la presse ce samedi, l'ambassadeur de l'Union européenne qui conduit la mission a annoncé avoir disponibilisé 70 millions d'euros destinés à des projets humanitaires dans l'est de la RDC. Le responsable de l'aide humanitaire en Afrique centrale et occidentale, basé à Bruxelles, qui est du voyage, s'inquiète cependant du retrait de la MONUSCO qui, selon lui, risque d'entraîner des conséquences néfastes. Les propos de Giuseppe Angelini ont été recueillis par Bernardine Diambou.
Cette année, on démarre avec 70 millions d'euros et probablement on fera plus en cours d'année. Par rapport à l'énormité des besoins, quelques gouttes dans la mer, il n'y a jamais une solution humanitaire à un problème humanitaire. Ça, je le répète tout le temps. Les problèmes sont immenses dans tous les secteurs. La protection des civils, la sécurité alimentaire, l'eau et assainissement, la santé, la logistique, la situation des violences de genre et sexuelles dont sont victimes pour la plupart les populations déplacées, ce sont tous des secteurs qui nous préoccupent. Les départs de la MONUSCO pourraient avoir des conséquences si elle n'est pas bien préparée en termes humanitaires, en exposant davantage les civils au danger des violences, en réduisant l'espace humanitaire parce que l'insécurité pourrait augmenter, en soutien des populations civiles pourrait être réduite, et aussi en termes d'infrastructures et de logistique.
Nord Kivu, encore les sinistrés de la récente catastrophe naturelle survenue à Kantine dans la localité de Bassoa. Lubena ont reçu des tôles offertes par le chef du secteur de Benimbao et un élu de la zone. Kantine est une localité située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Beni. Les sinistrés ont également été sensibilisés à planter plus d'arbres pour lutter contre les vents violents. Explication de Marc Marofimbo.
Il s'agit de 12 maisons d'habitation ainsi que l'Institut Madiwe des cantines à Loya dans la localité de Bassoa Lubena dont les toitures ont été emportées par les vents violents accompagnés d'une forte pluie dans la nuit du 4 au 5 avril dernier dans cette région. Depuis, les élèves de cette école avaient du mal à étudier. Certains se partageaient des espaces dans une église proche de l'école pour suivre les cours, d'autres s'installaient sous les arbres exposés ainsi aux intempéries. Pour les maisons d'habitation, les toitures avaient été remplacées momentanément par des bâches de fortune, indique la société civile locale. Ce vendredi, le chef du secteur de Benimbao ainsi qu'un élu du territoire de Beni ont remis des tôles aux familles sinistrées et à l'école pour la réhabilitation de la toiture afin de permettre aux élèves de retrouver leur établissement et étudier ainsi dans de bonnes conditions. Signalons que la localité de Bassoa Lubena est coutumière de ces genres des catastrophes naturelles dues à l'absence d'arbres dans la région. Lors de son passage dans le milieu, le chef du secteur de Benimbao a encouragé la population de cette entité à planter plus d'arbres afin de lutter contre les vents violents qui s'observent habituellement dans cette région pendant la période des pluies. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
On en vient maintenant à l'actualité politique. Au Congo central, les 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale ont été élus ce samedi à Matadi sous la coordination du secrétariat exécutif de la CENI. Papi Mantezolo Diatezoa a été élu président de cet organe délibérant. À Matadi, le compte rendu de Nana Plurich Mambou.
Papi Mantezolo Diatezwa a obtenu 23 voix sur les 39 votants. Il a battu ses adversaires, Maître Arli Koutidikese et le président du bureau provisoire Thomas Yobila Banzenza, qui ont obtenu respectivement 15 et une seule voix. Est élu vice-président avec une majorité écrasante de 38 voix sur 39, le député provincial Joseph Nsalambinga Bankita. Les députés provinciaux Victor Nswami et Bilin Tunga sont respectivement élus rapporteurs et rapporteurs adjoints. Le poste du questeur est occupé par le député Omega Mbadou, fils de l'ex-gouverneur du Congo central, feu Jacques Mbadou Situ Dimavungu. Signalons que sur les 40 membres qui composent l'Assemblée provinciale du Congo central, 39 ont été présents en ce scrutin et un seul s'est excusé. Ces membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale élus ce samedi seront installés le mercredi du 8 avril. Et ce même mercredi sera le début de la campagne pour l'élection des sénateurs, comme le prévoit le calendrier électoral publié par la CENI. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Et puis dans le Haut-Katanga, les députés provinciaux ont déposé hier après-midi une pétition contre les membres du bureau d'âge. Ils leur reprochent l'incompétence et le manque de considération. C'est à la suite de la non-tenue de l'élection des membres du bureau définitif prévue hier sans aucune explication. Radio Okapi Lubumbashi, Jean-Gandou Kabongo.
La déception et la colère étaient perceptibles sur le visage des députés provinciaux après le report inédit et sans explication de la plénière de ce vendredi. Pourtant, elle était consacrée notamment à l'élection des membres du bureau définitif. Devant la presse, le président du bureau d'âge en a donné la raison, Ladislas Longangé.
Nous avons eu des réclamations d'un candidat. Il est fonctionnaire au niveau de la présidence et député à la fois, ce sont des choses qui ne se font pas. J'ai dit, nous constituons d'abord une commission qui traite sur ce dossier. S'il faut qu'on voit la cour d'appel où nous trouvons une solution au niveau interne. À ce moment-là, les élections peuvent se faire.
Michel Kabwe, le candidat incriminé, a rejeté toutes ces allégations. D'après lui, la preuve de sa démission a été bel et bien introduite dans son dossier à l'Assemblée provinciale. C'est donc un faux fuyant qu'avance le président du bureau d'âge qui est aussi son challenger, a-t-il indiqué. À cette préoccupation, les députés Frondeur, par l'entremise de leur collègue Thomas Lupata, ont estimé que
il n'appartient pas au bureau d'âge de pouvoir juger parce que ce sont des questions qui devaient se traiter en plénière. Tous les membres de ce bureau d'âge sont candidats chacun selon les postes qu'ils cherchent à briguer. Ça a été d'une manière intentionnelle fait pour que la machine soit bloquée.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale peine actuellement à fonctionner. Le bureau de cet organe délibérant n'est toujours pas installé à une semaine des sénatoriales. À la base de ce blocage, le manque de moyens financiers. À Bukavu, la correspondance d'Emmanuel Elmejo Kabedi.
Certains députés provinciaux du Sud Kivu expriment déjà leurs inquiétudes quant au bon fonctionnement de leur institution en province. Le règlement intérieur qui venait d'être adopté il y a quelques jours attend encore l'aval de la Cour constitutionnelle à Kinshasa pour son entrée en vigueur. Conséquence, il est difficile de convoquer les élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée. Le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu s'est rebuté aux problèmes de moyens financiers et logistiques. Mais aussi, le blocage s'est réduit aux tractations de grandes formations politiques majoritaires à l'Assemblée sur le partage des postes du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Alors que le calendrier de la CENI prévoit le début de la campagne électorale des candidats sénateurs au 18 avril 2024 devant les députés provinciaux pour les élections prévues le lundi 22 avril. Certains députés se demandent déjà si ce calendrier sera respecté dans l'espace de quelques jours qui restent. Pour 4 sièges, plus de 65 candidats sénateurs du Sud qui vous s'annoncent déjà dans la ville de Bukavu pour affronter leurs électeurs. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Dans un autre registre, Never Limit Children Asbel a organisé hier vendredi ici à Kinshasa le premier congrès scientifique sur l'autisme. Objectif, dévoiler l'image positive de l'autisme dans l'émergence technologique et économique de la RDC, sensibiliser en même temps et identifier les personnes autistes aux quatre coins du pays. De précision avec le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, principal orateur du jour, Henri Kalama, est au micro de Grâce Amzati.
Beaucoup de ce que nous appelons des personnes qui ont révolutionné le monde sont autistes. La personne emblématique était ça. Choisie, c'était l'image de Léonard de Vinci. Et comme vous le savez, au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, l'art permet de construire la personne. Alors, donc, ça devient un lieu où la personne autiste s'exprime, la personne autiste se défoule et où la personne autiste se dévoile aussi. On pourrait lire sa pensée partant de ses productions. C'est une personne spéciale. C'est une personne qui est atypique, donc nous on est des neuroclassiques. Il y a plusieurs sortes d'autisme. Les cas dont nous avons parlé ici, c'est l'autisme Asperger, donc ok, comme un autisme supérieur, dans lequel on retrouve des personnes que nous nommons très souvent de manière abusive comme étant des génies. Et chez les artistes aussi, on en trouve. Quand on est ignorant, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Je crois que maintenant, avec des initiatives comme celle-ci, avec ces congrès, nous vulgarisons pour une connaissance meilleure des personnes autistes, pour qu'on les amène pas aux églises, mais qu'on les encadre en fait, qu'on les amène dans les bonnes écoles, qu'il y ait un suivi, parce que ce sont peut-être ces personnes-là qui pourraient sauver ce pays.
Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a posé jeudi dernier la première pierre pour la construction de 10 écoles et 2 salles polyvalentes, un projet financé par l'Agence coréenne pour le développement COICA et l'UNICEF en faveur de 10 000 élèves de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau dans la commune de Lancélé précisément. Un reportage de Jean-Pierre Elali Koko.
Pour Tony Mwaba, ce projet concrétise la volonté du chef de l'État de garantir la gratuité de l'enseignement et que l'éducation est le monopole de l'État congolais.
Nous sommes dans la province du Plateau, une des provinces où les écoles privées dominent et font la loi. Le choix de ce site avec 10 écoles officielles va nous aider à régler ce problème. Je le dis et je le rappelle, la question de l'éducation, c'est le monopole de l'État.
Alors, en quoi va constituer le gros du projet de construction des 10 écoles? Madame Katia Marino, représentante adjointe de l'UNICEF, explique.
Le programme contribuera à construire 60 salles de classe, 2 salles polyvalentes, 10 bureaux de directeurs, 80 portes-latrines, 6 points d'eau pour plus de 10 000 élèves.
Le directeur pays du COICA a indiqué que le projet durera 3 ans et il sera financé à la hauteur de 7,2 millions de dollars américains, dont 6,5 millions de COICA.
Une série d'activités a été organisée vendredi dernier à Kinshasa à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Justin-Marie Bomboko, l'un des dignitaires du régime du président Mobutu Sese Seko. Des enfants, des amis et connaissances de l'illustre disparu ont pris part à une messe d'action de grâce dite en la résidence familiale à Binza-Pigeon, commune de Ngaliema. Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son homélie dite, l'abbé Marcel Sembani de la paroisse Saint-Rombo a exhorté l'assistance à poser des actes réfléchis afin d'être immortalisé à l'instar de Justin-Marie Bomboko. Pour ses prélats catholiques, ce diplomate congolais était un véritable homme d'État pour avoir réussi à signer des accords et en fait rayonner la RDC, alors le Congo, au niveau international. L'un des enfants de l'illustre disparu a profité de cette occasion pour inviter ses sœurs et frères à l'unité afin de perpétrer les œuvres de leur père biologique.
J'interpelle mes frères et mes sœurs de nous aimer davantage. Papa nous a donné l'amour, faisons régner l'amour entre nous.
Pour sa part, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba a témoigné que Justin-Marie Bomboko était un homme assidu et rassembleur parmi ses contemporains.
Tous ceux qui abordaient Justin, l'histoire de Baswahili, de Bakongo, de Baluba, et les Bangalais étaient tous ses enfants et ses frères.
Décédé le 10 avril 2014 aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles en Belgique à l'âge de 86 ans, Justin-Marie Bomboko avait participé avec Patrice Emery Lumumba à la signature de l'acte consacrant l'indépendance de la RDC.
Actualité internationale.
Au Niger, une journée de mobilisation a eu lieu ce samedi à Niamey contre la présence de l'armée américaine. Des organisations de la société civile ont appelé à sortir dans la rue pour exiger le départ des troupes américaines dans le pays. Des milliers de personnes étaient rassemblées aujourd'hui dans la capitale pour soutenir la junte du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Une junte qui est en train actuellement de renforcer son partenariat avec la Russie. Et puis, ouverture ce samedi au Togo des deux semaines de campagne pour les législatives et régionales du 29 avril au Togo. Elles devaient initialement avoir lieu dans une semaine, mais elles avaient été reportées par le président Fornia Simbe suite au tollé suscité par l'adoption en mars dernier à l'Assemblée nationale de la nouvelle constitution, alors que cette loi fondamentale attend d'être promulguée par le chef de l'État. Les partis d'opposition qui contestent ce texte comptent actuellement, malgré tout, participer aux élections pour en faire un vote sanction.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière. Patrick Nkongo affirme à Radio Okapi que sa structure va soutenir les micro, petites et moyennes entreprises avec une ligne de refinancement de 20 millions d'euros obtenus du gouvernement allemand. Il s'entretient à ces sujets avec Daniel Tambizoni.
Monsieur le DG, bonjour.
Bonjour.
Le FPM SA vient de recevoir de la KfW une ligne de refinancement de 20 millions d'euros. Comment le FPM SA compte-t-il utiliser ces fonds pour dire à qui et à quoi est destiné ce financement?
C'est suite à la crise sanitaire de COVID-19 que le gouvernement allemand, à travers la BMZ, a accordé une subvention au gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour soutenir les MPME impactées par la crise COVID. Et le FPM SA, étant une société financière agréée par la Banque centrale du Congo, dont la KfW, qui est la banque de développement allemande, est actionnaire, a sélectionné le FPM pour porter ce projet. Donc, les bénéficiaires finaux sont des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, qui ont été touchées par la crise COVID. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, la crise COVID est passée et là, on est en train de voir comment réorienter ces fonds à travers les mécanismes d'impact pour plus d'inclusion financière.
Vous travaillez souvent avec les institutions financières pour atteindre ces micro, petites et moyennes entreprises. Alors, pour ce cas, quels seraient les critères de sélection de ces institutions financières?
Pour nous, en tant que FPM, nous passons à travers, nous utilisons les intermédiaires financiers pour toucher les bénéficiaires finaux, qui sont les MPME. Donc, on travaille avec les banques, les institutions de microfinance et les coopératives. Les critères restent standards, alignés, indépendamment des segments. Premièrement, d'abord, il faut que l'institution financière soit agréée par la Banque centrale du Congo. Et deuxième critère, l'institution financière doit avoir un système qui lui permet de générer des rapports pour le suivi sur l'utilisation des fonds mis à disposition. Et aussi, l'institution financière doit avoir un auditeur externe agréé par la Banque centrale du Congo. Ce sont des conditions de base. Effectivement, il y a aussi des conditions, des critères opérationnels qui accompagnent un peu l'accès aux institutions financières sur cette ligne de financement.
Les termes de référence de ce projet, Monsieur le DG, renseignent que le FPMSA va travailler aussi avec la cellule de financement des États fragiles, la CFF. Comment cela va se passer concrètement sur le terrain?
La CFF, c'est vraiment la branche technique du ministère des Finances qui, avec le FPM, signe toujours un contrat de transmission. Donc, le contrat de transmission, c'est un contrat qui matérialise la cession de ces dons au profit du FPM SA. Donc c'est vraiment un partenaire clé pour le FPM qui nous accompagne à chaque fois que nous sommes dans le processus de levée des fonds au niveau de la KfW.
À quel moment, Monsieur le DG, le FPM SA va mettre ce financement à la disposition des bénéficiaires finaux?
Oui, donc c'est une ligne de financement de 20 millions d'euros qui a trois dimensions en tout cas. Là, je parle un peu des caractéristiques. Il y a d'abord la ligne de financement de 15 millions d'euros destinée aux institutions financières. Et puis, il y a un mécanisme de partage des risques rattaché à cette ligne de financement qui est de 4 millions d'euros, c'est-à-dire couvrir des crédits accordés aux MPME jusqu'à 80% des taux de couverture, ce qui est très important. Et puis, il y a une ligne de frais de gestion de 1 million d'euros qui est mis à la disposition du FPM. Et ces trois composantes sont encadrées à travers un contrat et il y a des indicateurs de performance, bien entendu. Et les institutions financières ont l'avantage d'accéder à ces financements et de bénéficier aussi de cet instrument de partage des risques parce qu'il y a un besoin d'accroître l'offre de crédit, mais aussi d'améliorer l'appétence des institutions financières au niveau des MPME. Donc, à chaque ligne de crédit tirée, l'institution financière peut bénéficier d'une subvention de 25% équivalente à cette ligne au profit des MPME et à taux zéro, bien entendu.
Cette ligne de financement serait la première. Alors, à quand la seconde, monsieur le DG? Et nous allons terminer par là.
Je crois qu'on a encaissé la totalité à la date d'aujourd'hui. C'est un contrat qu'on avait signé en décembre 2021. La première tranche a été décaissée le 29 décembre 2023. Et le 29 février 2024, on a y encaissé la dernière tranche.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, Patrick Nkongo, interrogé par Daniel Tambizoni. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Jean-Désiré Kanyama qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Jacques-Yves Molima.